Bonsoir à tous. Le choc, la sidération, puis la colère, Beyrouth plongée dans un cauchemar qui n'en finit pas. Les explosions d'hier se répètent en boucle dans les esprits. On ira sur place où l'inquiétude est encore vive. Ici, la peur vire à l'aigreur. Vous l'entendrez, la diaspora libanaise dénonce l'incompétence du gouvernement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un Liban déjà à bout. Et puis le gouvernement libanais qui tente justement de faire la lumière sur cette catastrophe. Que sait-on ? Que s'est-il passé ? On fera le point. Dans ce journal également, une aide bien accueillie des viticulteurs français et des vacances qui finissent mal. Les campeurs de Martigues face à une scène de désolation. Les incendies ont tout emporté, leur mobil-home et leurs souvenirs.
France Inter.
Voilà plus de 24 heures que Beyrouth s'est immobilisée, la capitale libanaise sous le choc. Elle oscille entre la recherche de victimes et l'incompréhension face à ces quelques minutes, ces deux explosions massives, impressionnantes, qui ont fait basculer son quotidien, le genre de traumatisme qui fige un moment. Tia Libanaise n'est pas prête d'oublier ce qu'elle a vécu.
J'ai été beaucoup jetée dans mon lit. Je suis arrivée sur l'armoire. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que c'est fini, que c'est bon. C'est comme ça que je meurs. J'ai vu ma chambre complètement en ruine. Et j'avais juste envie de partir. Je voulais juste qu'on s'enfuit. On a pris des heures sur la route parce que les routes étaient bloquées un peu partout. Il y avait trop de trafic. Il y avait tout le monde qui avait du sang, soit sur le dos, soit sur le ventre, soit sur la tête, soit sur les bras. Il y avait un père qui portait sa petite fille dans ses mains. Il y avait tellement de blessés partout. La nuit a été horrible, ça c'est clair. Je me suis réveillée en panique. J'avais tout le temps les mêmes images. L'image de moi qui tombe sur le sol, l'image des gens en sang. C'était un cauchemar et c'est encore un cauchemar pour tout le monde.
Un cauchemar qui interroge, que s'est-il passé ? Comment expliquer qu'en un instant, 113 personnes sont mortes, 4000 se sont retrouvées blessées, parfois sous les décombres, sous les projectiles de gravats et de vitres tombées du ciel. Les réponses apportées à ce stade par le gouvernement libanais se concentrent sur un stock de nitrate d'ammonium, une substance chimique contenue en grande quantité dans le port de Beyrouth, Sébastien Biérou.
Au cœur de l'enquête, il y a ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont restées stockées 6 ans au même endroit dans le port dans des conditions de sécurité très douteuses. Qui est responsable ? Le directeur général des douanes assure que ses services ont alerté la justice à 6 reprises, mais que rien n'a été fait. Le gouvernement demande d'ores et déjà l'assignation à résidence des personnes impliquées dans ce stockage. Selon la presse libanaise, le nitrate d'ammonium était entreposé dans le port dans le cadre d'une saisie financière afin de rembourser une dette contracté auprès d'un homme d'affaires libanais. La commission d'enquête politico-militaire dispose de 5 jours pour rendre ses conclusions, mais beaucoup de Libanais ne semblent pas convaincus. Ils redoutent un travail partial de la part de la justice. Un député d'opposition demande à Emmanuel Macron de profiter de sa visite à Beyrouth pour demander une commission d'enquête internationale.
Les explications de Sébastien Berriot. Une autre enquête française, cette fois, est ouverte à Paris pour blessures involontaires au motif que 21 Français figurent parmi les blessés des explosions de Beyrouth. Pour leur rendre hommage à eux et à toutes les victimes, la tour Eiffel s'éteindra à minuit ce soir. Et on reste à Paris où la communauté libanaise suit douloureusement la situation depuis hier avec, chez les personnes que vous avez rencontrées, Victoria Koussa, un mélange de colère et de solidarité.
À la terrasse d'un restaurant de grillade à plus de 3000 km de Beyrouth, des amis se refont la scène.
Nous sommes en colère jusqu'au ciel.
Ah, c'est même plus une goutte d'eau, là. C'est une bouteille d'un litre. Là. C'est fini. C'est là, franchement, on atteint le summum. Franchement, il n'y a pas plus haut.
D'après Oumar, c'est la preuve de l'incompétence du gouvernement contre lequel se mobilisent les Libanais depuis des mois.
Il y a des produits chimiques qui peuvent être placés en plein centre-ville de Beyrouth parmi tous les civils. Je vois pas comment ils réfléchissent. C'est vraiment irresponsable.
Quel Libanais il est au Liban ? On est tous à l'étranger à cause de quoi ?
À chaque fois que voilà, on a l'espoir, c'est bon, ça y est, le Liban est en train de se réveiller, paf, il se passe un truc et ça retombe. Franchement, c'est dégueulasse ce qui se passe.
Certains comme eux comptent manifester leur colère devant l'ambassade à Paris après-demain. D'autres s'organisent pour aider les sinistrés.
Du riz, des biscuits, de la farine.
Une collecte lancée par Elias et Barbara il y a 2 semaines face à la crise économique qui prend une toute autre tournure.
Depuis qu'il y a eu l'explosion au Liban, les gens ils se sont mobilisés davantage. Tous les 30 minutes, on peut recevoir 5 à 10 appels.
D'autres envisagent même de se déplacer directement au Liban pour prêter main forte.
Élan de solidarité aussi de la part de la communauté internationale. L'Italie envoie ce soir des pompiers spécialisés dans les risques chimiques. Alger dépêche 4 avions et un bateau d'aide humanitaire. La France, elle, fait parvenir des secouristes et du matériel sanitaire avant l'arrivée demain à Beyrouth d'Emmanuel Macron. L'inquiétude face au nombre de nouveaux cas de Covid-19, les autorités sanitaires recensent 1695 nouvelles contaminations en seulement 24 heures en France. Cette hausse est sans précédent quand on regarde l'évolution de la situation depuis fin mai. La preuve, s'il en fallait, que la circulation du virus s'intensifie. 9 personnes en sont mortes entre hier et aujourd'hui. Seul le nombre d'admissions en réanimation est en baisse. Le masque obligatoire dans certains quartiers de Tours. La mesure prend effet vendredi, dans 2 jours, dans les zones les plus fréquentées de la ville, comme les marchés en plein air ou le vieux Tours. L'idée affichée par la préfecture étant d'éviter un reconfinement. Mesure similaire à Nancy sur décision du préfet de Meurthe-et-Moselle. Le masque sera obligatoire dans le centre-ville de 11h à 2h du matin à partir de samedi. À Paris, la préfecture est encore en train d'étudier la question. Elle rendra sa décision dans moins de 48 heures. Un coup de pouce pour le secteur du tourisme. Un nouveau PGE prêt garanti par l'État entre en vigueur. Il devrait permettre aux professionnels concernés d'emprunter plus qu'avec un PGE classique. Emprunter plus pour sauver les trésoreries en Berne en raison de la crise sanitaire. C'est un souvenir de vacances dont il se passerait bien. Les 360 clients du camping des Tamaris près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône ont dû fuir leur mobil-home hier en plein après-midi. Fuir les flammes qui se rapprochaient dangereusement pour finalement passer la nuit dans un gymnase avant de constater aujourd'hui qu'il ne restait plus rien de leur lieu de vacances. Quentin Pérez de Tuléda, vous avez assisté à cette scène de désolation.
Dans le parc de la maison de Caro, où elle a été hébergée, Vanessa enchaîne cigarettes et coups de fil. Cette maman de 3 enfants cherche des solutions avec son mari pour rentrer en Corrèze sans rien. À part
des vêtements de plage et puis des vêtements qu'on nous a prêtés, des habitants nous ont prêtés du village cette nuit.
Même chose pour Jean, tout ce qui lui reste, il le porte sur lui.
Là, vous voyez, un t-shirt, un pantalon et puis une paire de sandales.
Ce retraité se retrouve littéralement à pied. Il habite à Valenciennes, à 1000 km du camping des Tamaris, où sa voiture n'est plus qu'une carcasse. Il l'a prise en photo avec son smartphone.
On voit ici que toutes mes bagages étaient chargés, prêts à partir. Il y avait les clés de la maison, je ne les ai plus, il va falloir les faire ouvrir chez moi par un serrurier. Et là, il n'y a plus rien du tout, tout est fondu, il n'y a rien du tout, rien, absolument rien.
Le bungalow que Michael avait acheté a aussi été dévoré par les flammes.
C'est lunaire, il n'y a plus rien, c'est rasé, il n'y a plus rien du tout.
Ce qui a disparu à jamais pour ce vacancier, ce n'est pas le matériel, mais tous ses souvenirs de vacances en famille.
40 ans de camping en Vaud. Et ma femme a fait ses premiers pas là-bas à 44 ans. Non, ce sera compliqué de retourner.
Le reportage de Quentin Pérez de Tuléda. Aujourd'hui, les pompiers sont restés sur le qui-vive toute la journée. Au total, ce sont plus de 1000 hectares qui sont partis en fumée la nuit dernière sur 5 communes différentes, dont Martigues et Port-de-Bouc. Vous l'avez entendu, le viticulteur dont je vais vous parler tout de suite. Il fait partie de ces viticulteurs qui vont recevoir cette aide de près de 80 millions d'euros débloquée. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui l'annonce aujourd'hui de son déplacement à Sancerre dans le Cher. Cette enveloppe s'ajoute au plan d'aide de 170 millions d'euros déjà promis à la filière viticole fragilisée par la crise sanitaire et les sanctions américaines visant le vin français. Un geste que salue la filière mais qui n'est pas suffisant pour déstocker les invendus du confinement, explique Jean-Philippe Marie, les vignerons à Sals.
Sur l'aide au stockage, tant mieux, mais il faut beaucoup plus que ça. Sachant qu'on a toujours le problème de la taxe Trump, on perd des volumes en pagaille au niveau des États-Unis, personne ne réagit, et pour l'instant on n'est pas encore bien entendu par rapport à la filière aéronautique, qui est la filière automobile, qui ont eu je ne sais pas combien de milliards, nous on est vraiment très très bas. Et sachant que la filière viticole représente quand même le deuxième pilier de la balance commerciale au niveau français. Il manque encore beaucoup d'enveloppes financières pour pouvoir assainir et arriver à sauver ce qui peut être sauvé au niveau de la filière viticole. Voilà.
Jean-Philippe Marie Vigneron est président de la Fédération Sud AOC. Il va faire chaud, on va le voir dans quelques instants avec la météo. Alors on vous propose d'aller chercher la fraîcheur au musée. C'est le moment ou jamais de visiter le Louvre, le musée parisien le plus visité au monde et 4 fois moins fréquenté que d'ordinaire. Il enregistre 10 000 entrées quotidiennes en juillet, du jamais vu pour le Louvre. La météo, et on l'a dit, des chaleurs qui s'intensifient, Sébastien Léas.
La chaleur va s'accentuer à partir de demain. Après une nuit encore respirable, les températures vont rapidement s'envoler, les maximales gagnant 2 à 5 degrés par rapport à cet après-midi et dépassant régulièrement la barre des 30 degrés. Demain après-midi, il fera 31 degrés à Strasbourg, Perpignan et Bastia, 32 degrés pour Caen, Metz, Besançon et La Rochelle. On ira jusqu'à 33 degrés à Lyon, à Lille et à Marseille, 34 degrés pour Aurillac et pour Rennes et 35 degrés à Paris et à Nîmes. Le mercure grimpera même jusqu'à 37 degrés à Bordeaux et Toulouse. Cette chaleur intense va encore monter d'un cran vendredi et les nuits suivantes seront aussi plus chaudes. Cet épisode de forte chaleur et de canicule devrait durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Côté ciel, c'est encore un soleil despotique qui va régner sans partage demain. Le soleil sera un peu plus voilé près de la Manche et sur la Bretagne, mais ces nuages vont progressivement se morceler pour laisser place à un après-midi plus ensoleillé.
Prévision de Sébastien Léas.